Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, vous le savez, média et culture au sens large, très large. Nos indispensables du jour, aujourd'hui, ce sera des conseils de séries et de bandes dessinées. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie de l'émission qui vous manque, qui vous aura manqué sur europe1.fr. Vous pouvez même réécouter une partie que vous avez déjà entendue en direct. Notre info média autour de la disparition de Jean-Paul Belmondo. Cérémonie hommage cet après-midi aux Invalides présidée par Emmanuel Macron. Mais dès ce matin en kiosque, dans toute la France, avec ce numéro spécial de Paris Match. C'est souvent Paris Match qu'on achète pour le garder lors des grands événements historiques, le 11 septembre, la victoire en Coupe du Monde ou la mort de François Mitterrand. Pourquoi, comment, nous serons avec le patron de Match, Hervé Gattegno. Et puis nos invités, le journaliste Thomas Hugues, qu'on avait un peu perdu de vue. Il avait présenté des JT sur TF1, il avait été sur LCI, sur CNews, sur iTélé. Le voici sur Public Sénat avec une nouvelle émission Sens Public. Il nous dira ce qu'il compte faire. Ça démarre lundi, mais il sera avec nous dans 30 minutes. Enfin, la comédienne Isabelle Carré pour Délicieux, film d'Éric Bénard avec Grégory Gadebois et Guillaume de Tonquédec et Benjamin Laverne. Rien que ça, le film raconte l'invention du premier restaurant en 1765, avant la Révolution française donc. Mais vous verrez à quel point les préoccupations de l'époque sont totalement d'actualité. Il est même déjà question de circuit court. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Et bonjour.
Et bonjour. Sommaire de votre journal des médias.
La décision du CSA sur le temps de parole d'Éric Zemmour qui fait beaucoup parler depuis hier. Un nouveau consultant sport pour Canal+, complément d'enquête qui gagne une bataille contre la désinformation. Envoyé spécial sur les algues vertes. Et puis une bonne nouvelle pour la production audiovisuelle française qui va vous concerner quand même. Vous verrez.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont regardé le lancement de la série Les Invisibles dont je vous parlais dans le journal des médias hier. 4 140 000 téléspectateurs devant France 2. 19% de part d'audience pour le premier épisode. France 2 qui est donc leader de la soirée. C'est un bon lancement. Hein. Leader devant TF1 qui avait une série là aussi, Good Doctor. Là, c'est la saison 4. Donc forcément, il y a un petit peu moins l'effet de... Exactement. 3 230 000 téléspectateurs devant le premier épisode. 15,8% de part d'audience. Mais c'est stable par rapport à la semaine dernière. Et puis troisième, M6 avec Cauchemar en cuisine, on a un inédit, hein, 2 260 000 téléspectateurs, 11,2% de part d'audience. À noter le très très bon score de TMC, 1 230 000 téléspectateurs devant 21h Média de Julien Belver.
Qu'on recevait hier
qui était
dans
notre invité.
Média.
Et là, je vous donne l'opportunité de dire pour la première fois de la saison.
On lui a porté chance.
Voilà, 5,9% de part d'audience. TMC qui est donc la première chaîne TNT est la seule au-dessus du million qui devance même le film d'Arte qui était pourtant un film inédit, Portrait de la jeune fille en feu.
Julien Belver espérait entre 600 000 téléspectateurs et 1 million, donc il a largement dépassé ce score.
Je pense qu'il est content ce matin et son producteur avec.
Culture Média.
À la une, cette décision du CSA, les télévisions et les radios vont devoir comptabiliser le temps de parole d'Éric Zemmour.
Oui, car le polémiste est désormais considéré par le CSA comme un acteur du débat politique national, ce sont les mots du CSA, et non plus un simple éditorialiste. Alors la même règle va s'appliquer qu'aux autres hommes et femmes politiques. Son temps de parole doit être décompté comme divers droites par les chaînes et radios qui déclarent les temps de parole au CSA. Attention, il ne s'agit pas de changer la règle pour les éditorialistes, c'est bien le cas particulier d'Éric Zemmour dont il est question. Alors, il n'est pas encore candidat à l'élection présidentielle officiellement, mais le CSA s'est appuyé sur plusieurs éléments pour prendre sa décision, notamment l'intégration du nom d'Éric Zemmour dans les sondages pour la présidentielle, les campagnes d'affichage Zemmour président, et puis une interview sur la chaîne YouTube Livre Noir. Et plus généralement, ses prises de position et actions.
Alors, le communiqué du CSA remonte à hier soir et cette règle s'applique sur le temps de parole d'Éric Zemmour à partir d'aujourd'hui même.
Oui, et donc dès ce soir sur ses interventions dans l'émission Face à l'info sur CNews, mais uniquement lorsqu'elles porteront sur le débat politique national. Même chose quand il sera sur Paris Première dans Zemmour et Nolo, ou bien encore samedi soir pour l'émission On est en direct sur France 2, où il viendra faire la promotion de son livre.
Éric Zemmour a réagi dans un communiqué hier soir.
Oui, il crie à la censure et il estime que cette décision, je cite, porte atteinte à son métier de journaliste. Le CSA lui a rappelé dans son communiqué sa mission, garantir la bonne marche de la vie démocratique en veillant au pluralisme tout en laissant les médias audiovisuels seuls responsables de leur programmation. Et les deux employeurs d'Éric Zemmour, CNews et Paris Première, n'ont pas encore réagi à cette décision du CSA.
Tout autre chose, un nouveau consultant pour Canal+.
Rudy Garcia, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais, c'est une information du journal L'Équipe. Il va commenter certains matchs de Ligue des Champions et il sera présent de temps en temps dans l'émission Canal Football Football Club.
Le CFC.
Canal Football Club. Rudy Garcia n'était plus engagé avec un club depuis la fin de son contrat en mai. Et à sa conférence de presse de rentrée, Canal+ avait officialisé déjà l'arrivée d'Éric Abidal comme consultant et avait promis d'annoncer d'autres recrues. Et bien voilà déjà un premier nom.
La suite de votre journal, Louise, avec un reportage d'Envoyé spécial ce soir. Reportage consacré aux algues vertes en Bretagne.
Alors oui, la problématique n'est pas nouvelle, mais elle est toujours d'actualité. Cet été encore, les plages de la baie de Saint-Brieuc ont vu des centaines et centaines de tonnes d'algues s'échouer sur les plages. Envoyé spécial propose ce soir une approche personnelle avec un reportage du journaliste Clément Le Goff. Il est allé là où il a grandi, sur ces terres bretonnes, dans la baie de Saint-Brieuc, donc, pour comprendre pourquoi ce problème se répète chaque année depuis 50 ans, pourquoi depuis tout petit, la plage à deux pas de chez ses parents est envahie d'algues vertes et donc il est impossible de s'y baigner. Alors le reporter nous embarque avec lui dans la commune de Ilion à la rencontre de tous les protagonistes, habitants, médecins et agriculteurs. Oui, agriculteurs, car ils ont une part de responsabilité dans la formation des algues vertes. Pas facile donc de les convaincre de témoigner. Écoutez Clément Le Goff.
Le sujet, il est difficile à traiter parce que eux le vivent mal aussi, et surtout dans cette commune. Ils ont vu sur la mer, ils voient les algues vertes tous les jours, et ils ont bien conscience qu'ils ont une part de responsabilité, une responsabilité qui est d'ailleurs très importante selon les scientifiques. Donc ça a été compliqué de convaincre des agriculteurs de me parler. Mais en fait, ce qu'on veut montrer à travers ce sujet, c'est que on peut pas dire les agriculteurs sont des pollueurs, les agriculteurs sont responsables. C'est un système qui génère ces algues vertes, et tout le monde a une part de responsabilité, même le client, le consommateur a sa part de responsabilité.
Oui, des algues vertes toxiques lorsqu'elles se décomposent et en plus d'empêcher la baignade, en plus de dégager une odeur parfois insoutenable pour les riverains, elles rendent l'air respiré mauvais pour la santé.
Je savais que c'était dangereux d'aller dans les algues en décomposition. Ça, on le sait, tous les Bretons sont au courant. En revanche, ce que j'ignorais totalement, c'est que même l'air ambiant, même cette mauvaise odeur, elle peut être toxique. Et on a réalisé nous-mêmes certaines mesures et on s'est rendu compte que les chiffres étaient importants. Et puis en faisant le reportage, il y a plusieurs habitants qui sont venus me voir en me disant « j'ai mal à la tête » ou « j'ai des irritations aux yeux, j'ai des nausées ». Ça correspondait à chaque fois au moment où les algues étaient là sur la plage, à chaque fois où les algues ne pouvaient pas être ramassées. Quand on le respire dans l'air ambiant, ce n'est pas un danger de mort. En revanche, ça provoque des symptômes et on a aucune idée de ce que ça peut générer comme pathologie à long terme.
Tout cela est à découvrir ce soir dans Envoyé spécial à 21h05 sur France 2. Deux autres reportages au programme, le Liban en faillite et une immersion avec les antipasses sanitaires. Et puis l'invité d'Élise Lucet, ce sera Daniel Pseny, c'est le journaliste du Monde qui avait filmé le Bataclan depuis sa fenêtre. On se souvient de ces images.
Cette image est très étroite.
Voilà. Et il avait été blessé en allant aider des victimes dans la rue.
France 2 toujours, quand l'émission Complément d'enquête fait bouger les lignes.
Oui, il semblerait qu'une enquête de l'émission consacrée au business des fake news ait eu un impact direct sur le financement d'un site de désinformation, un impact qui pourrait bien fragiliser ce site. Petit retour en arrière pour bien comprendre. Alors, si vous nous écoutez tous les jours ou tous les jeudis, vous avez peut-être entendu notre invitée jeudi dernier, c'est la journaliste Aude Favre. Elle venait parler de son complément d'enquête.
Elle venait parler de son complément d'enquête sur le business des fake news.
Exactement.
Justement.
Et c'est un reportage dans lequel les journalistes avaient notamment montré comment Google contribue indirectement à financer des sites de désinformation en monétisant les publicités sur ces sites. Les journalistes avaient alors interpellé Google France, qui s'était engagé à étudier la liste des sites concernés. Eh bien, on vient d'apprendre que l'un d'entre eux, The Gateway Pundit, c'est un des plus gros sites de désinformation américains, ne bénéficiera plus de cette publicité acheminée par Google sur le site, ce qui va représenter des grosses pertes financières. Un complément d'enquête avait estimé ses recettes publicitaires à environ 200 000 euros.
200 000 euros par mois.
Par mois.
1 400 000 par an.
Oh, si vous êtes calculé. Fort en calcul.
Peut-être que je me suis trompé. J'ai un peu peur de m'être trompé. Non, 2 400 000 par an.
2 400 000 par an. Bon, vous n'êtes pas si fort finalement.
Non, je ne suis pas si fort.
Bon, en tout cas, 200 000 euros par mois, donc c'est énorme. Et c'est le créateur du site lui-même qui l'a révélé. Google n'a pas souhaité commenter.
Et alors, complément d'enquête qui propose un nouveau numéro ce soir, juste après Envoyé spécial.
Oui, ce sera sur la pénurie de médicaments avec l'organisation de fausses ruptures de stock. Des ruptures de stock qui ont des conséquences directes sur la vie des gens au sens propre, la vie, la santé.
On termine ce journal avec une bonne nouvelle pour la production française. L'exportation de programmes audiovisuels français a atteint des sommets en 2020.
Mais oui, le monde raffole de nos programmes. Le flux financier a atteint 355 millions d'euros en 2020. Les exportations de fiction progressent et surtout celles de documentaires. Et le premier genre à exporter reste tout de même les programmes d'animation. Alors en fait, il y a toujours autant d'achats de programmes qui existent déjà. Mais ce sont les préventes des programmes qui font un bond, c'est-à-dire avant même que les programmes soient fabriqués, il y a des achats à l'étranger. Tout cela, c'est grâce à l'essor des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+. En fait, elles achètent des programmes et en plus, elles poussent les chaînes traditionnelles à en acheter pour rester dans la concurrence. Tout ça, ce sont des enseignements tirés à partir de l'étude du Centre national du cinéma et de l'image animée et de la branche audiovisuelle d'Unifrance. C'est une bonne nouvelle pour vous, téléspectateurs, puisque, évidemment, plus il y a d'achats à l'étranger, plus il y a de l'argent pour les producteurs français, donc plus il y a de programmes, forcément, sur nos antennes aussi.
Un cercle vertueux sur lequel on termine ce journal des médias. Merci beaucoup, Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour avec ce numéro spécial de Paris Match consacré à Jean-Paul Belmondo. 70 pages de photos, souvent très très rares, et d'anecdotes non moins savoureuses. On en parle avec le directeur de la rédaction de Paris Match, Hervé Gattegno. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Cet après-midi aux Invalides, le président de la République va rendre un hommage national à ce géant du cinéma et du patrimoine français qui était Jean-Paul Belmondo. Ce même jour, l'hebdomadaire Paris Match propose un numéro spécial Belmondo, carrière retracée en 70 pages de photos et d'histoires. Et comme souvent dans les grands événements, c'est vers Paris Match que l'on se tourne le 11 septembre, la mort de François Mitterrand, une victoire en Coupe du Monde. Numéro spécial que l'on achète, numéro spécial que l'on garde. Hervé Gattegno, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la rédaction de Paris Match, également du JDD, mais aujourd'hui c'est Match qui nous intéresse. Ce numéro de Paris Match est titré « L'irrésistible ». Il y a une grande photo de Jean-Paul Belmondo. Vous nous direz ensuite comment vous l'avez choisi. Mais vous n'avez pas fait comme les autres journaux. Vous n'êtes pas servi d'un des titres de films qu'ont fait la plupart de vos confrères, « Le magnifique »,« L'as des as ». Pourquoi ce choix ?
Bah, la réponse est contenue dans la question, cher Philippe.
Vous vous êtes dit, ils ont tous fait ça, on va pas le faire.
Tout le monde l'a fait, voilà. Ouais. Et surtout, je savais d'avance que tout le monde allait titrer Le Magnifique, et c'est presque le cas, ou éventuellement L'As des As, ou Itinéraire d'un enfant gâté. Donc, je me suis dit qu'il fallait trouver un mot, parce qu'il ne fallait pas charger trop la couverture. C'était priorité à la photo, au portrait de Belmondo. Et donc, un seul mot pour résumer Belmondo, ce n'est pas facile. Et donc, on s'est arrêté, on a travaillé à plusieurs et on s'est arrêté sur l'irrésistible parce qu'on a trouvé que c'était difficile de lui résister dans ses films la plupart du temps. Et puis, sa popularité en témoigne. Et puis, son sourire qui était effectivement irrésistible.
Alors, on le voit sourire sur la couverture. Elle date de 77. Pourquoi ce choix de couverture ? Il y a toujours des batailles de couverture, parfois épiques, homériques à Paris Match. Pourquoi celle-ci ? C'est ni la première carrière, ni la fin de carrière. C'est pas la photo la plus connue. Ça n'a pas dû être facile de choisir. Et pourquoi celle-ci ?
Non, ça n'a pas été facile de choisir. C'est très difficile, en fait, de choisir un portrait qui résume un personnage. Quand on fait un numéro spécial d'hommage à une aussi grande star disparue, il faut qu'on trouve, je vous l'ai dit pour le mot qui le caractérise, et il faut qu'on trouve le visage, la mise en scène qui résume une vie et une carrière lorsque c'est un artiste. Et donc ça, c'est une chose très difficile, surtout lorsque, comme Jean-Paul Belmondo, on a eu plusieurs vies et plusieurs carrières.
Il y a plusieurs looks.
Il y a plusieurs bébels.
Il y a même plusieurs looks. Le bébel d'Abou Tsouf, il est en costume. Là, il est en veste en jean.
Et donc, effectivement, les journaux, d'ailleurs, c'est amusant de faire ce petit exercice. Les journaux, souvent, disent quelque chose d'eux-mêmes à travers le choix de cette photo. Donc, un certain nombre de journaux ont préféré le Belmondo de la nouvelle vague, très jeune, très beau, un peu mystérieux et en noir et blanc. D'autres ont préféré les grands polars de Belmondo. Il y a eu cette très belle une du Figaro en pull noir avec son holster de policier. Nous, finalement, on s'est arrêté sur cette photo. D'abord parce que moi, je la voulais en couleur, parce que je trouve que Belmondo, pour les Français, c'est de la couleur, c'est du spectacle, c'est quelque chose de rayonnant
et même
de flamboyant.
Mais un deuil, c'est en noir et blanc.
Oui,
pour
deuil,
le coup,
oui, mais
ça aurait pu être possible, on ne vous l'aurait pas reproché.
Roger Théron, qui était le grand directeur mythique de Paris Match, disait « Ce qui nous intéresse dans la mort des gens, c'est leur vie. » Et effectivement, lorsque quelqu'un d'aussi célèbre et d'aussi familier des gens meurt, on n'a pas envie de raconter sa mort, on a envie de raconter sa vie, en l'occurrence même ses vies artistiques. Et donc, ce portrait, j'ai trouvé, moi, et nous avons trouvé que c'était probablement celui qui, malgré toutes les difficultés que j'ai dites, résumait Bebel avec son extraordinaire popularité. C'était un grand acteur populaire et c'est ça que montre cette photo.
Alors, on sait que les médias préparent toujours des nécrologies des grands personnages, des grands artistes. Et il y a une légende qui entoure Paris Match. On dit que vous avez le plus gros, si j'ose dire, frigo, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon, de France, avec des photos inédites. Depuis quand le dossier était prêt? Depuis À bout de souffle en 59?
Non, bien sûr que non, mais c'est vrai que les plus anciennes photos que nous publions dans ce numéro datent de 1956.
Je vais raconter une anecdote, je me permets. J'ai commencé dans la presse écrite au journal Actuel dans les années 80 et parfois on voulait des photos et on disait non, c'est Paris Match qui a bloqué cette photo il y a 5 ans déjà. C'est un truc de dingue ce que fait Match autour de la photo.
Alors, il y a deux choses différentes. D'abord, il y a les photographes de Match, les photographes qui travaillent pour Match, qui donc font des sujets pour nous.
Ah ben ça, on n'a pas les droits.
Non, mais qui sont en effet dans ces extraordinaires archives, ce frigo dont vous parliez. Et puis, il y a effectivement les photos qui ont été repérées par nous.
Les photos d'agence bloquées par Match.
Et qu'on a bloquées. Voilà.
C'était le sens de ma question. Est-ce que vous aviez ça pour Belmondo?
Oui, alors on avait évidemment bloqué quelques photos. Mais c'est vrai que pour une carrière comme celle de Belmondo, qui est si ancienne et dont Match a si souvent parlé, il y a aussi beaucoup de photos de Paris Match, des photos qui ont été faites par les photographes de Match ou qui appartiennent à Match. Et donc, c'est vrai que c'est d'abord dans cette réserve-là, qui est presque inépuisable, que nous allons chercher, parce que justement, on veut que nos photos apportent quelque chose de différent, que les lecteurs ne trouveront nulle part ailleurs. Et c'est vrai que là, on a un album de Belmondo qui est absolument incomparable.
Il y a des photos inédites? Il y a des photos que vous n'avez jamais publiées?
Ah oui, oui, il y a des photos que...
Le nu, il est inédit? Il y a un nu de Belmondo?
Non, le nu n'est pas complètement
moi,
inédit.
J'avoue que je ne l'avais jamais vu.
Mais surtout, cette photo de nu qui ressemble incroyablement à une statue grecque,
elle a une
particularité, c'est qu'elle a été prise par Ursula Andress, qui était à l'époque la compagne de Jean-Paul Belmondo.
Ah oui, ça c'est de l'info. Il y a aussi une photo à la naissance de son fils Paul à la maternité, et vous précisez, parce que c'est ça qui est bien avec Match, il y a l'info, il sortait tout juste du commissariat.
Oui, oui.
Racontez l'histoire.
Il y avait une bagarre. Il s'était bagarré en pleine rue, comme ça lui arrivait quand même relativement souvent. Et donc, effectivement, il savait que sa femme était à la maternité. Donc, il y a eu un imbroglio qui semble sortir en réalité d'un film de Jean-Paul Belmondo. On imagine ce que Philippe de Broca aurait pu tirer d'une scène pareille. Et d'ailleurs, toute la vie familiale de Jean-Paul Belmondo a été rythmée de cavalcades et d'incidents du même genre.
On va parler de cavalcades, on va parler de cascades, on va parler, il y a beaucoup de choses à dire encore sur Belmondo. L'Irrésistible, c'est la une de Match, le patron de Match est avec nous, c'est Hervé Gattegno. Culture Média continue sur Europe 1.
C'est dégoulinant de conneries.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas, tu vas faire semblant de les connaître. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné.
Magnifique itinéraire d'enfant gâté, si je me souviens bien.
Oui, c'est superbe. C'est vraiment une espèce de leçon de cinéma. Cette scène-là est inoubliable. Et d'ailleurs, dans le numéro de Match, Claude Lelouch nous raconte des choses autour de cette scène. Et il dit cette chose très belle, que quand Belmondo apprend à Richard Anconina à dire bonjour, au fond, il raconte sa propre vie. Et donc, c'est vrai que cette scène est vraiment très touchante. On a l'impression que Bebel est un professeur de cinéma et un professeur d'humanité pour Anconina.
Je ne vous ai pas présenté, vous êtes Hervé Gattegno, vous êtes le directeur de la rédaction de Paris Match et pour qui prendrait l'émission en cours de route. D'abord, vous êtes bien choisi. Deuxièmement, Match sort aujourd'hui un numéro spécial, Belmondo l'Irrésistible, 70 pages. Match et les photos, c'est aussi le texte, je ne vais pas revenir sur le slogan, le poids des mots, le choc des photos. Je m'attendais à trouver le premier papier sur Belmondo dans Match, il n'est pas dans ce numéro.
Non, il n'est pas dans ce numéro, c'est vrai.
Il n'était pas bien. Vous l'avez relu, j'imagine. Vous l'avez retrouvé ou pas?
Je n'y ai même pas pensé.
Ah bah mince, alors, je viens de vous donner une idée.
Non, nous, ce que nous voulions, c'était ce qu'on appelle dans le jargon une nécrologie, c'est-à-dire un beau texte qui raconte sa vie. Et une vie aussi longue, aussi dense, avec une carrière aussi riche, c'est très difficile de résumer ça en 3 pages. Et puis, quelques petits témoignages bien choisis. Nous avons le témoignage de Christian Brincourt.
Ça allait être ma question. Comment vous avez choisi les témoignages? Parce que des gens que Belmondo a connus, il y en a pléthore, qui savent écrire, il y en a un peu moins, mais il y en a beaucoup aussi. Comment vous avez choisi les témoignages et les intervenants?
Alors, vous savez, à Match, on cherche l'esprit de famille. Donc, évidemment, on ne peut pas solliciter la famille dans un moment comme celui-là. On les a approchés, bien sûr. On leur a envoyé quelques messages, ce qui était normal. On a travaillé sur l'idée de la famille de Match aussi. Donc, on est allé solliciter Christian Brincourt, qui est lié.
Alors, qui est-il? Une question que j'ai prévue. Qui est Christian Brincourt? Quel rapport entre lui et Match et entre lui et Belmondo?
Alors, Christian Brincourt, c'est un compagnon de route du journal. Il c'était un grand reporter, un baroudeur de TF1, mais dont le fils, Marc Brincourt, a été le directeur photo de Paris Match pendant des années et qui est encore aujourd'hui un conseiller très précieux pour le journal. Et donc, Christian Brincourt a rencontré, il y a des années, Jean-Paul Belmondo, alors qu'ils étaient tous les deux en rééducation, après des pépins de santé pour chacun d'entre eux. Et donc, ils sont devenus amis de convalescence, et puis ensuite amis tout court, et ils ne se sont pas quittés. Donc, Christian Brincourt était un des fidèles de Jean-Paul Belmondo. Et il nous raconte cette amitié remplie d'anecdotes, de moments entre copains. Et c'est vrai que beaucoup de gens, beaucoup de Parisiens ont eu la chance de voir Jean-Paul Belmondo. Ça m'est arrivé moi-même, peut-être vous aussi, Philippe, oui. Dans des restaurants.
Oui, et il voulait toujours qu'on vienne à sa table discuter, tailler le bout de gras.
Absolument.
Même après sa maladie, même après son AVC, il était tout aussi généreux et tout aussi souriant.
Toujours très gentil avec les gens qui lui demandaient des photos, des autographes, et toujours avec ce sourire très, très doux et très sympathique qu'il avait, et pendant très longtemps accompagné de son très fidèle ami Charles Gérard, qui est ce comédien qu'aimait beaucoup Claude Lelouch aussi.
Il y a une photo magnifique, une double page, on est à la radio, on ne peut pas la montrer par définition, mais il y a une double page splendide.
Elle est très émouvante, cette photo, parce qu'on voit que ces deux amis se regardaient vraiment comme plus que des frères. Et donc, c'était aussi beaucoup ça, Jean-Paul Belmondo, c'était une bande de copains, c'est ce que raconte Christian Brincourt.
Alors, c'est aussi un des domaines de prédilection de Paris Match, la vie sentimentale, une vie de bébelle, c'est aussi la vie de couple. Élodie Constantin, il lui a fait changer son prénom, j'ignorais complètement, sa première femme, Ursula Andrés, Laurent Tonelli, Carlos Sotomayor, Nati, aucune ne témoigne dans ce numéro. C'était un choix de votre part ou elles n'ont pas voulu parler?
Alors, la difficulté, ça aurait été d'aller chercher de très anciennes compagnes. Et puis, vous l'avez dit, là, encore une fois, abordons quelques secrets du métier. Beaucoup de choses, pour un artiste comme celui-là, sont prêtes d'avance. Et évidemment, on ne peut pas aller solliciter des gens de la famille avant la mort de quelqu'un, même lorsqu'on sait qu'il est malade, lorsqu'on sait qu'il est âgé. On ne peut pas aller demander ça à des parents ou à des anciennes compagnes ou à des ex-femmes. Donc, dans ces cas-là, on essaie de trouver des témoignages éventuellement aussi proches que cela en très peu de temps. Et le fait est que nous avons cherché à joindre l'une ou deux de ces anciennes compagnes et nous n'y sommes pas parvenus. Je pense que dans ces cas-là, l'émotion doit être telle chez les proches que ce ne sont pas forcément les meilleurs témoignages, si j'ose dire. Il vaut mieux un vieil ami comme Christian Brincourt qui raconte une tranche de vie. Je crois que pour ce numéro-là, c'est probablement plus précieux. Et puis ensuite, le temps des hommages familiaux viendra.
Belmondo, c'est également les cascades. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait remarqué Bruno Donnet dans sa chronique Télescopage. C'était dans Culture Média mardi.
En revanche, de la cascade. Je vous en ai trouvé à la pelle dans les archives de France Info.
Il y a beaucoup de gens quand même qui m'ont vu faire des cascades.
Mais également dans celles de France 3.
Et ils savent que je les fais moi-même et que je ne me fais pas doubler.
Dans les commentaires du 19-20.
Des films dans lesquels il effectue lui-même ses cascades.
Mais aussi dans ceux du 19-45 d'M6.
Des cascades risquées, l'acteur ne triche pas. Comme à son habitude et au péril de sa vie, il les exécute lui-même.
Sans oublier le fameux micro-trottoir du 20h de TF1.
Il faisait les cascades lui-même.
Ou encore de France 3.
Un acteur qui a fait beaucoup de cascades par lui-même.
Tout comme dans les réactions d'anonymes compilées par France 2.
Puis j'admirais le fait qu'il faisait lui-même ses cascades.
Alors je dois dire que dans Paris Match, la presse écrite n'a rien envie à la télé. Il y a beaucoup de photos de cascades, elles sont très réussies. Sans la pétoche, pas de talent, c'est Belmondo qui disait ça. Les cascades, c'est aussi ce qui fait la force de son lien avec son public. Et vous-même, il y a une force visuelle très très puissante dans le journal.
Oui, bien sûr, c'était des exploits de cinéma. Tous les comédiens ne sont pas capables de faire ça. Alors on sait qu'il y a des cascadeurs professionnels dont c'est le métier. Rémi Julienne, à qui nous rendons hommage aussi avec une magnifique double page de photos de Belmondo avec lui et une voiture couchée sur le flanc. Rémi Julienne, c'était le professeur de cascade de Jean-Paul Belmondo et qui nous a quittés au début de cette année. mais Belmondo faisait partie de ces acteurs, et tous les Français le savent, qui vous tenaient à réaliser eux-mêmes leur cascade. Tom Cruise n'a rien inventé, Jean-Paul Belmondo a fait tout ça bien avant lui.
À propos de cascade, qui dit cascade dit culbute, c'est quoi la hausse des ventes de numéros spéciaux comme ceci que les gens achètent pour les garder ?
Ah bah, ça dépend évidemment, plus on en vend et plus on sera content.
Non mais l'étiage c'est quoi ? Vous doublez vos ventes, vous triplez vos ventes ou c'est moins sensible que ça ?
Ah si, Paris Match peut évidemment tripler ses ventes, c'est-à-dire qu'on peut vendre jusqu'à 500 000 exemplaires en kiosque sur une occasion comme celle-ci. C'est une façon de rendre hommage à l'artiste et oui, bien sûr, dans ces grands événements-là, Match est attendu. Parce qu'il y a ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe, c'est-à-dire cette ressource de photographie absolument incomparable, et parce que je crois qu'il y a un savoir-faire maison qui consiste à traiter ça d'une façon journalistique, mais avec une émotion sincère.
Merci beaucoup, Harry Gattegno. Vous serez à l'hommage présidentiel cet après-midi ?
Non.
Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur des rédactions du JDD et surtout de Paris Match, donc sorti aujourd'hui d'un numéro spécial Belmondo chez votre marchand de journaux. Et je vais le dire, Paris Match qui fait partie du groupe Lagardère, mais vous aurez fait partie d'un autre groupe, on vous aurait invité quand même, parce que c'est une institution.
Merci
doublement.
Dans
un instant, nous serons en compagnie de journaliste Thomas Hugues qui revient sur la chaîne Public Sénat. Pour faire quoi ? Il va nous le dire.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Thomas Hugues.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste, vous avez présenté durant 6 saisons l'émission 7 à 8, 6, 7, 8. Si vous faites un loto sur TF1 en compagnie de Laurence Ferrari, le grand public vous avez aussi découvert comme le Joker des JT de TF1 pendant 12 ans avant l'arrivée d'Harry Roselmack. Longue carrière, parfois en zigzag, on va en parler. Vous avez présenté Média Le Mag sur France 5, vous êtes passé par CNews pendant 2 ans, juste avant l'arrivée d'Éric Zemmour, puis par RTL et la chaîne économique Bismart. Et là, vous déboulez sur Public Sénat avec une nouvelle émission qui va démarrer lundi, sera le 13. Ça va s'appeler Sens Public du lundi au jeudi, 18h-19h30. Sens Public, avant de tout dévoiler, quel sens vous donnez à ce terme ?
Je crois que vraiment, le principe de l'émission est dans le titre. Sens Public, le sens, le public, donner du sens à l'actualité, ça veut dire prendre le temps d'approfondir les thématiques d'actualité et se mettre au service du public, se mettre au service des citoyens. C'est vraiment, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce titre qui a été trouvé par, c'est pas moi donc je peux le dire, c'est un super titre qui a été trouvé par Perrine Tarnot, qui est la directrice de l'info de Public Sénat. Il y a tout dans le titre.
Alors justement, Christopher Baldelli, le nouveau PDG de Public Sénat, n'a pas fait mystère de son choix. Il vous a contacté pour vos compétences et également pour votre notoriété, donc pour le degré de notoriété que vous avez dans le public. Vous assumez ça ?
Oui, évidemment, ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Cette notoriété, elle est née il y a longtemps avec des émissions très grand public, des JT, vous les avez citées sur TF1. Donc, c'est un capital quand on fait ce métier, la notoriété. Et je ne vais pas faire semblant de le sous-estimer.
Christopher Baldelli, c'est donc lui qui vous a contacté. Vous lui avez dit oui tout de suite ?
Ah oui. J'ai pas. Alors après, on a discuté un peu, évidemment, mais j'ai pas hésité une seconde.
Parfois, il y a des gens qui mettent 3 mois, 4 mois avant de dire oui.
Oui,
et parfois, des gens qui répondent dans les 24 heures.
Et ça m'est arrivé de mettre du temps avant de dire oui ou de répondre non dans les 24 heures aussi. Mais
pourquoi vous avez dit oui tout de suite à Public Sénat ?
Parce que d'abord.
Est-ce que c'est une chaîne que vous regardiez ?
Pas beaucoup, de temps en temps, les documentaires, l'émission de Rebecca Fitoussi qui était à la même heure, je la regardais de temps en temps. Voilà, ça dépendait aussi de mes dispos. Mais il y a cette case horaire, justement, 18h-19h30, c'est une très belle exposition. C'est un moment où on peut se poser, analyser l'actualité de la journée. Et puis, il y a la ligne éditoriale de Public Sénat. Cette idée de ne pas forcément courir après le buzz, après la énième polémique du jour. Donc, je reviens à cette idée de prendre le temps, de donner du sens. Et puis, il y a aussi, je ne vais pas le nier, le fait que ce soit Christopher Baldelli qui me le propose, parce qu'on a travaillé ensemble pendant 6 ans sur la Radio Rouge et RTL, pour ne pas la nommer. Et c'est un grand patron de presse, tout simplement.
Et puis, on l'avait connu comme grand patron de télévision. Moi, aussi. Je l'ai connu à Paris Première et aussi à France Télévisions. Mmh. Quelle est la feuille de route de l'émission ? Puisque, justement, vous l'avez dit, à cette heure-là, les 4 chaînes d'infos continuent, ont quasiment toutes des émissions d'information, de débat. Comment se distinguer ?
Alors, l'idée, c'est de ne pas, je l'ai dit, je le répète, de ne pas courir après le buzz ou la polémique du jour. Alors, c'est compliqué parce que on est une chaîne, Christopher l'a dit l'autre jour sur votre antenne, on est une chaîne d'actualité, on n'est pas une chaîne d'info. quand on entend ça, on peut se dire, mais c'est la même chose. Il y a vraiment cette idée de ne pas cavaler après le thème du jour, ou surtout, je dirais, la énième polémique. Et donc, ça veut dire qu'on va peut-être faire de l'actu, mais pas forcément la même que tout le monde. C'est pas toujours facile de faire ça. Hein.
Non, mais j'ai bien compris, c'est plus facile de dire ce qu'on va pas faire que ce qu'on va faire. Mais par exemple, si on dit je vais pas faire le thème du jour, vous allez pas non plus faire le thème de la veille.
Non, on va essayer de faire le thème de dans 10 jours, éventuellement, d'anticiper. On va essayer de. Mais l'émission, si je peux la
calibrer. Ma question. Comment elle va être, comment elle est composée, voilà. Construite.
Ça répond en partie à la question précédente aussi. On a une première partie, un premier débat. Nos débats, ils seront nourris essentiellement d'experts.
Il y aura des débats.
Il y aura deux débats dans l'émission. Un premier débat qui va faire une quarantaine de minutes sur un thème qui sera principalement dans l'actualité. Mais d'abord, dans l'actualité, il n'y a pas seulement un thème, il y en a souvent plusieurs. Ensuite, il y a une façon d'angler une thématique d'actualité pour ne pas forcément faire exactement la même chose que les autres. Et puis, on a un second débat qui durera, lui, 30-35 minutes, où là, on va beaucoup plus être dans, justement, ce que je disais, l'anticipation, le droit de suite ou le décalage. Il faut de temps en temps, assumer le décalage. Si je peux vous donner quelques exemples, parce qu'on est en train de travailler...
Un exemple, si l'émission était aujourd'hui, par exemple.
Alors, si l'émission était aujourd'hui, est-ce qu'on ferait Bébel ?
Ça allait être ma question.
Eh bien, je crois pas. On l'aurait sans doute fait le jour même. Mmh. Parce que, pour moi, l'émotion, elle était tellement forte. Et c'est rare, finalement... d'être dans une rubrique nécrologique, j'entendais Hervé Gattegno juste avant vous, en ayant le sourire. Bébel, on écoutait les nécros en ayant le sourire.
Donc beaucoup moi, moins je drôle, pense que, beaucoup moi, moins je drôle. Si l'émission était aujourd'hui, vous auriez traité le procès, j'imagine, des attentats.
Je pense qu'on l'aurait traité hier. Il y a tellement d'angles possibles qu'on l'aurait traité hier. Ensuite, c'est une thématique sur laquelle on va revenir dans les... Vous imaginez, le procès va durer tellement longtemps. On va forcément revenir sur ce procès. Mais la semaine prochaine, par exemple, dans les sujets un peu plus magazine, je mets des guillemets à cette expression, ça va être très varié. On va parler à la fois du destin de Marine Le Pen, de cette notion de plafond de verre politique, des 40 ans du TGV ou de la radioscopie de la jeunesse française. Voilà, donc ça, ce sont des thématiques qu'on a envie de traiter. Et qui seront dans l'actualité, mais qui ne seront pas forcément le thème que tout le monde aura martelé ce jour-là.
Les 40 ans du TGV, je ne m'y attendais pas.
Ben oui, vous m'avez accueilli. Ça a transformé la France.
En même temps, comme beaucoup de patrons de chaînes nous écoutent, vous venez de leur filer trois idées de sujets. C'est très difficile de se distinguer, et je ne vous en fais pas le reproche. Hein. L'émission, vous l'avez dit, il y a un débat. Ensuite, il y aura de l'interview ou pas du tout ? Il y aura deux grands débats.
Il y aura des personnalités dans les débats, plutôt des experts. Hein. Je voudrais insister là-dessus parce que on va pas rajouter. Il y a beaucoup de chaînes, notamment de chaînes d'infos, qui le font. Un énième débat d'opinion. On en fera de temps en temps. On va pas s'en priver. Moi, je veux pas me mettre de boulet au pied. Mais on va d'abord aller chercher des experts pour approfondir, pour donner des clés. Moi, je crois que les citoyens, et les électeurs, on va être dans une année primordiale dans le fonctionnement de la Ve République française, il faut leur donner les clés, on va essayer de faire ça.
Quelle clé ? Il est venu avec son trousseau, c'est Thomas Hugues qui est l'invité de Culture Média. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Thomas Hugues qui arrive sur Public Sénat avec une nouvelle émission qui va démarrer lundi. Ce sera du lundi au jeudi de 18h30 à 19h30. 18h-19h30 et ça va s'appeler
Sens
Public. Oui, avec une rediffusion à 22h. Vous l'avez dit, l'émission composée d'un débat en première partie avec quatre invités, ensuite un autre débat en deuxième partie du lundi au jeudi. Je vous le reproche pas, mais c'est quasiment le même format que la nouvelle émission de Routel Krief sur LCI. Elle aussi du lundi au jeudi. Là encore, comment se distinguer ?
Mais oui, mais c'est pas. Enfin, vous connaissez ce métier mieux ou aussi bien que moi.
Mais j'aimerais pas être à votre place.
Mais
j'aimerais
c'est les angles. C'est les
sur
angles.
Une chaîne
tous les matins. Tous les matins. Philippe, vous définissez un angle, des angles autour des thèmes d'actualité que vous essayez de traiter.
Heureusement, il n'y a pas pléthore d'émissions médias, ou peut-être malheureusement.
Oui.
Pour vous, c'est beaucoup plus difficile.
J'en ai fait pendant huit saisons. Donc, c'est en fait notre métier, il est passionnant pour ça. C'est-à-dire que sur une même thématique, on peut la traiter de cinq façons différentes. On va beaucoup parler de politique, évidemment. Tout le monde va beaucoup parler de politique en année présidentielle. On va être jugé sur pièce. Moi, je demande rien d'autre que ça. Comment on va se différencier par rapport aux autres ? Par nos choix éditoriaux. Tous les jours, on va se poser les questions autour de l'actualité pour la faire à notre façon, en donnant du sens.
On ne l'a pas dit encore, vous aurez deux intervenants, Laetitia Coupa et Mathieu Croissando. D'abord, comment les présenter ?
Laetitia Krupa, c'est une journaliste que je connais très bien. On a travaillé ensemble à Media Mag pendant plusieurs saisons. Elle a d'abord été sur le terrain en reportage, un aiguillon pour décoder la communication, notamment des politiques, et puis ensuite en chronique en plateau. C'est une grande spécialiste de la communication politique. Elle vient de sortir un livre qui s'appelle « La tentation du clown » où elle scrute en France, à l'étranger, depuis des années, de Coluche à Zemmour, on pourrait dire, les candidats hors système. Et donc, ça va être une thématique forte de la campagne. Donc, elle va nous apporter cette expertise. Et puis, Mathieu Croissando, grand journaliste politique, ancien patron de la rédaction du Nouvel Obs, qui signe des chroniques dans la matinale de BFM. C'est un des analystes politiques les plus fins aujourd'hui. C'est Christopher qui l'a choisi. Et il sait choisir les hommes et les
Alors,
femmes.
Ils ne seront pas ensemble. Laetitia Krupa sera le mardi et le jeudi. Et Mathieu Croissando, si mes infos sont exactes, le lundi et le mercredi.
Vos infos sont bonnes.
Alternance. Il y aura aussi un espace de dialogue avec téléspectateurs. Ça va être quoi ? Il y aura du visiophone à l'ancienne. Petit hommage à Marc-Olivier Fogiel.
Ouais, c'est ça. Il y aura de la visioconférence ou du duplex. C'est d'ailleurs très drôle. Je ne sais pas si ça vous fait tiquer autant que moi, mais on a des télés de plus en plus précises, avec un piqué d'image qui est génial, et puis on accepte des visioconférences.
L'image est de plus en plus dégueulasse.
L'image est souvent
mais il y a deux lectures.
Un peu dégueulasse.
Puisqu'auparavant, il n'y avait pas d'image.
Voilà,
donc
en fait,
c'est mieux que rien.
C'est
par
mieux
définition.
Que rien. Et puis on s'est adapté, comme tout le monde, à la crise sanitaire et aux multiples confinements. Bref, les électeurs ont la parole. C'est le titre de cette rubrique dans l'émission. Clin d'œil, évidemment, à mes années RTL. Et. L'idée, c'est de trouver tous les jours un témoin de terrain. C'est de marquer l'ancrage territorial aussi de l'émission et de Public Sénat. Public Sénat, voilà.
Public Sénat, il y a Sénat. Ça sera un sénateur ou ça sera
non,
un électeur ?
Non, alors pourrait y avoir des sénateurs.
Voilà.
Mais pourrait y avoir des sénateurs, même dans certains débats. Mais des sénateurs experts. Quand un sénateur a bossé pendant 6 mois sur un texte de loi, je peux vous dire qu'il connaît bien le sujet. Donc, il sera là comme un expert. Pourrait y avoir, évidemment, des élus de terrain, mais aussi des chefs d'entreprise, des représentants
d'assos,
des artisans.
Mais c'est vous qui allez les contacter ou c'est eux qui vont vous contacter en disant « j'ai envie de parler ». Il y aura les deux.
Il y aura les deux. C'est-à-dire, on va lancer classiquement un appel sur les réseaux le matin en annonçant les thèmes de l'émission, en proposant aux citoyens de réagir. Et voilà, on va donner leur réaction. Il y aura du téléphone, de la visio, du duplex, le plus vivant possible. Ça va durer entre 10 minutes et un quart d'heure.
Alors Thomas Hugues, vous connaissez bien les médias. Vous avez présenté, vous l'avez dit, Média Le Mag sur France 5 pendant 6 ans. Vous êtes passé sur CNews pendant 2 ans, juste avant l'arrivée d'Éric Zemmour. Juste un mot, certains journaux avaient écrit que ceci expliquait cela, que l'arrivée d'Éric Zemmour était la cause de votre départ. Vous confirmez, vous infirmez ?
Mais non, puisque Éric Zemmour, si je ne me trompe, il est arrivé au mois de octobre ou novembre sur CNews, et je suis parti au mois de juillet.
Si j'avais... Vous auriez pu partir parce que vous saviez qu'il arrivait. Vous démentez cette info.
Non, mais si j'avais voulu partir, je serais parti en novembre.
Alors, vous avez vu cette nouvelle qui est tombée hier soir. Le CSA a annoncé que le temps d'antenne d'Éric Zemmour devrait désormais être comptabilisé par les médias audiovisuels. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Je trouve que c'est cohérent. Si on se place dans le rôle, ce qu'est le rôle du CSA, je trouve que c'est cohérent. Parce que, même si j'ai entendu que Éric Zemmour parlait de censure, plus ça va, plus il est candidat. C'est-à-dire qu'il y a tous les signes d'une candidature présidentielle. Donc, on ne peut pas faire comme s'il ne l'était pas, parce que là, il y aurait distorsion de démocratie. Donc, je trouve que c'est logique, le CSA est dans son rôle.
C'est tombé pendant que l'émission se déroulait, c'est tombé il y a quelques minutes, c'est Le Parisien qui l'annonce, qui annonce une info donnée par CNews. Éric Zemmour va rester à l'antenne, et donc, ils ne vont rien changer. Est-ce que vous pourriez recevoir Éric Zemmour dans votre émission ?
Bien sûr, pourquoi pas on va recevoir sans doute Robert Ménard la semaine prochaine sur l'un de nos thèmes.
Voilà, le maire de Béziers, qui soutient Marine
Le Pen. Ils sont assez proches politiquement, Robert Ménard et Éric Zemmour. Évidemment, l'émission, c'est une émission de pluralisme sur l'actualité et de pluralisme politique. Donc, heureusement qu'Éric Zemmour pourra venir dans l'émission.
Au passage, ça sert rare pour être signalé, les deux chaînes parlementaires, à savoir Public Sénat et LCP, n'ont pas de compte à rendre au CSA. Qu'est-ce que ça change pour vous, si tant est que ça change quelque chose ?
Alors, pour moi, je ne pense pas énormément...
Pour vous, pour la chaîne, globalement hein.
Oui, mais je pense qu'on va, quand même faire attention aux notions de pluralisme et d'équilibre. Pourquoi ? Parce que c'est inscrit dans la logique d'une chambre parlementaire. Enfin, voilà, on va pas commencer à zapper une partie des familles politiques.
Je voudrais faire entendre un document. On était le 12 septembre 2001, donc le lendemain du 11. C'est très, très court. Et vous êtes Thomas Hugues en direct sur LCI.
Voilà, il est presque 8h ici à Paris, à Boulogne, 7h59.
On a pris son dans le documentaire de Julien Belver qui est passé hier soir sur TMC. Vous l'avez regardé? Vous êtes regardé ou pas?
Non, j'ai pas pu voir le documentaire de Julien. Je suis très heureux de ce succès que vous avez annoncé. Il était chroniqueur dans Média Le Mag, Julien Belver, pendant plusieurs saisons. Donc heureux de voir ce succès. Non, j'ai pas pu voir son film. Je vais le regarder en replay. C'est évidemment un souvenir professionnel marquant.
1 230 000 téléspectateurs hier soir. Thomas Hugues, je vous souhaite le même succès, quoique Médiamétrie ne s'intéresse pas aux audiences de Blixena. Donc, je ne sais pas comment on va faire pour avoir vos audiences. Ça démarre.
Je peux dire juste un mot, je vous prends 30 secondes. Très vite.
Non, les 30 secondes, on les a plus, on ne peut plus. Déjà, je suis déjà à 30 secondes de retard. 10 secondes.
Alors, 10 secondes, je suis parrain de l'ODP, les Orphelins des Pompiers. Il y a un festival qui se tient à Bordeaux, 23, 24, 25, 26, avec un casting de dingue. Je vous fais la liste ultra vite. Oshi, Suzanne, Véronique Sanson, Gaëtan Roussel, Boulevard Désert, Catherine Ringer qui chante Lerita, Ayam et Camélia Jordana.
C'est notre sommaire de la deuxième heure partie culture. Non, je déconne. Merci d'avoir été avec nous.
Salut,
Thomas
Philippe,
Hugues.
Merci.
Sens Public, ce sera lundi sur Public Sénat. Nous, on continue évidemment. Bruno Donnet va arriver dans ce studio qui a suivi justement l'affaire Zemmour, mais vu par les médias. Notre invitée, c'est la comédienne Isabelle Carré. Elle va parler du film délicieux qui raconte l'invention du premier restaurant. Il y aura Marc-Antoine Lebrun en fin d'émission. Je vous dis à tout de suite.